Vous pensez bien sûr que le Seigneur est au milieu de nous, sans doute, et vous êtes même certain que vous n'êtes pas venu pour rien, mais que vous avez envie de faire sa volonté. Je suis obligé de faire une longue introduction avant de venir au sujet principal que j'ai sur le cœur. Lisons, s'il vous plaît, dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 14 et 15. Si nous sommes tout à fait honnêtes, ce verset doit nous bousculer et nous gêner. Parce qu'il est simple, il est clair, mais je ne sais pas si nous pouvons dire que c'est tout à fait ce qui correspond à notre façon de prier. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. N'est-ce pas que c'est simple ? C'est un verset carré, tout à fait direct, droit. Mais le problème, c'est que nous ne le comprenons pas bien, ce verset. Et quand vous m'aurez écouté, vous allez bien le comprendre. J'en suis persuadé. Et bien le mettre en pratique parce que je l'ai sur le cœur, il me hante, il me travaille, j'ai déjà parlé là-dessus. Mais je suis persuadé que nous ne prions pas bien le Seigneur. Et que souvent, quand nous prions le Seigneur, nous avons en face de nous un concurrent que nous cherchons à persuader, quelqu'un qui nous résiste. Nous voudrions sauver des âmes, mais il faut encore convaincre Dieu de sauver des âmes. Nos prières ressemblent un peu à cela. En tout cas, le verset que je viens de lire ne dit pas du tout cela. Il est droit et clair. Nous avons l'assurance que si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et quelque chose que nous demandions, nous recevons la chose que nous avons demandée. Il y a donc une prière qui est selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire qui est selon l'ordre de Dieu. Par exemple, lorsque Élie a réuni tous les prophètes, vous vous souvenez cela, sur le mont Carmel. Élie a réuni tous les prophètes, il y avait des prophètes de Baal, il y avait des prophètes d'Astarté, le peuple clochait, marchait mal, et tout allait mal. Et Élie a fait tout un cérémonial étonnant qui a choqué beaucoup de monde. Il a fait dresser un autel, il a fait arroser, et puis on a immolé des taureaux, et puis les prophètes de Baal ont prié, rien ne s'est passé. Et puis lui, il est arrivé, et le feu est descendu. Vous vous souvenez de cela? Et vous savez ce que dit Élie? Il dit, Seigneur, montre-leur que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Il avait un ordre pour faire cela. Et puis, quelque temps après, il est face à Acab et il dit, presse-toi parce qu'il va pleuvoir. Et la Bible nous dit que Élie s'est mis à genoux, il envoyait son serviteur, vous vous souvenez cela? Plusieurs fois, le serviteur montait, il regardait, il revenait, et il disait, le temps est toujours clair, il n'y a rien. Et Élie repriait, et puis le serviteur remontait jusqu'au moment où il lui a dit, il y a un petit nuage. Et vite, Élie a dit au roi, attelle ton char parce qu'il va pleuvoir. Eh bien, si vous regardez bien les versets précédents, c'est Dieu lui-même qui avait dit, je vais faire pleuvoir. Il n'a pas inventé Élie. Il a fait ce que Dieu lui avait dit. Et il a récité, pardon pour le mot, enfin je l'emploie pour le moment volontairement, la prière que Dieu lui avait ordonnée, il a obéi à Dieu en priant, Seigneur, fais tomber la pluie. Il avait reçu l'ordre de demander que la pluie tombe. Et c'est exactement ce que l'apôtre Jean veut dire quand il dit, nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Donc peut-être que notre problème, c'est que lorsque nous prions, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Nous ne pensons pas que la volonté de Dieu est telle ou telle, ou qu'elle est de telle et telle manière. Quand nous prions, nous pensons qu'il s'agit pour nous de persuader Dieu. Or, à partir de ce soir, frères et sœurs, Quand nous allons prier, nous allons nous sentir des serviteurs de Dieu. Nous sommes avec Dieu, du même côté que Dieu. Le prophète Élie n'était pas contre Dieu et Dieu n'était pas contre le prophète Élie. Ils étaient serviteurs. Élie était serviteur de Dieu. Il travaillait pour lui. Il avait la parole de Dieu. Et quand nous allons prier Dieu d'envoyer un réveil ou de sauver ou de faire certaines choses, il faudra que nous cherchions quelle est la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a une parole de Dieu? Est-ce qu'il y a une promesse de Dieu? Est-ce que Dieu a dit quelque chose à ce sujet? Et nous sentir co-associés avec Dieu dans cette affaire. J'ai parlé d'Élie. Maintenant, je voudrais que nous venions sur un autre sujet. J'avais besoin de vous dire tout cela pour bien comprendre le passage qui va nous occuper ce soir. Dans Ézéchiel, nous allons lire au chapitre 37, un passage merveilleux que vous connaissez bien sûr très bien, sur une vallée macabre. Ézéchiel, chapitre 37, verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Éternel, tu le sais. » C'est-à-dire, moi, j'en sais rien. Il me dit, prophétise. Prophétiser, ça veut dire parler de la part. Prie, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais. À votre avis, qu'est-ce qu'il a dit, Ézéchiel? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Il n'a rien inventé, Ézéchiel. Il a répété ce que Dieu lui avait dit. Je prophétisais. Selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, l'Éternel, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, « Viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Je prophétisais. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière? Je prophétisais. Il a parlé à l'esprit. Il a répété ce que Dieu venait de lui dire. C'est-à-dire qu'il a dit « Esprit, souffle, viens des quatre vents. » Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je suis au verset 9. Il me dit, prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Avant de terminer ce récit, je voudrais que vous imaginiez ce qui se serait passé si Ézéchiel, apprenant qu'il y avait une vallée dont il ignorait l'existence jusque-là, et sachant qu'il y avait beaucoup de morts dans cette vallée, s'était mis dans la tête de prier Dieu pour que Dieu ressuscite ses morts. Qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il aurait peut-être fait comme nous. « Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, donne la vie à ces gens. » Mais c'était beaucoup plus simple. Dieu lui a fait faire une expérience que je voudrais que nous voyons un peu plus en détail. Dieu l'a fait passer par un apprentissage, il lui a donné des leçons. Et le cœur d'Ézéchiel a changé, il a vu les choses différemment. Et quand il a prié, c'est pas que Dieu avait changé, mais c'est que son cœur avait changé et que Dieu pouvait exaucer la prière d'Ézéchiel. Et quand il a dit « Esprit, souffle », l'Esprit a soufflé. Verset 11, il me dit « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc. » Ça fait trois fois que Dieu lui dit de prophétiser. « Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, le peuple de Dieu est dans les sépulcres. » Ça c'est plus grave. « Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi, dit l'Éternel. » Et là, on peut dire « Amen ». Pour commencer par le commencement, il faut commencer par ce verset où Dieu explique pourquoi il y a tant de morts dans la vallée. D'où viennent ces morts? C'est le peuple de Dieu qui a perdu l'espérance. Voilà pourquoi il y a eu tant de dommages, tant de dégâts. Le peuple de Dieu a eu son espérance détruite. Et Dieu signale que l'espérance étant détruite, bien les gens sont devenus des morts. Les cadavres, la vallée s'est remplie, les cadavres se sont desséchés, les eaux se sont éparpillées, c'était un lieu extrêmement macabre. Je crois qu'on pourrait dire aussi aujourd'hui que lorsque l'Église perd son espérance, il est certain qu'elle ne peut pas aller très loin. Une Église qui n'a pas d'espérance est une Église qui ne peut pas survivre. Il me semble qu'il est écrit quelque part dans la Bible que l'esprit et l'épouse disent « Viens, ça c'est l'espérance. » Et des fois je me dis, mais est-ce que dans les églises, on a bien envie du retour du Seigneur Jésus? Est-ce qu'on a l'espérance du retour du Seigneur dans l'église? Est-ce qu'on a envie que le Seigneur revienne? Est-ce que plutôt on ne dirait pas « Attends encore un peu » Il me semble qu'il est écrit dans la Bible que nous devons être fidèles jusqu'au bout. Mais si on n'a pas d'espérance, comment être fidèle jusqu'au bout? Comment un homme peut-il être fidèle s'il n'a pas d'espérance? S'il n'espère pas dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu fait, dans ce que Dieu est? Il me semble qu'il est écrit dans la Bible qu'il faut de la ténacité pour marcher avec le Seigneur. Non seulement être fidèle, mais être tenace, résister jusqu'au bout. Mais comment faire cela si on n'a pas d'espérance? Je vous le dis, frères et sœurs, une église qui n'a pas d'espérance en Jésus-Christ, c'est une église qui est retournée dans le monde. D'abord, il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 12, je pense, il est écrit que vous étiez dans le monde sans espérance. Sans Christ, sans espérance, et Dieu nous a arrachés de là. Mais si dans l'église nous sommes sans espérance, ça veut dire que nous retournons peut-être là où nous étions avant. Le fait d'être en Jésus-Christ donne aux hommes de l'espérance. L'espérance de quoi? De pouvoir le prier, d'avoir une guérison, d'être mieux dans notre vie, de trouver un emploi. L'espérance de voir nos bobos guéris, c'est ça l'espérance des enfants de Dieu? Est-ce que l'apôtre Paul n'a pas dit qu'un homme qui est sans espérance est le plus malheureux des hommes? Est-ce qu'il n'est pas écrit quelque part dans la Bible que ceux qui n'ont pas d'espérance sont extrêmement malheureux? Ils ressemblent à tous les autres dans le monde. Quand on se convertit, l'espérance vient. L'espérance de rencontrer un jour Jésus-Christ. L'espérance d'avoir la paix en Jésus-Christ. L'espérance de son retour. L'espérance du jugement. L'espérance de la vie éternelle. Et quand l'Église perd cette espérance, elle ressemble fort au monde. Et ici, il nous a expliqué que l'espérance détruite, c'est une armée qui redevient des ossements desséchés. Tout est démoli, tout est détruit, il n'y a plus rien et Dieu a besoin d'agir. Ce que je voudrais vous dire ce soir, vous voyez, j'ai été long avant d'y venir. Ce que je voudrais vous dire ce soir et vous montrer, c'est que Dieu pourrait faire ça tout seul. Parce que Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répété les paroles de Dieu. Dieu pourrait faire cela tout seul, mais Dieu ne le fait pas tout seul. Dieu a besoin d'Ézéchiel, ici. Dieu a besoin de vous, de moi, dans nos familles, dans notre quartier, dans l'église. Dieu a besoin de nous. Et il n'entend pas se passer de nous. Alors, avant d'aller plus loin, la question que je pose, est-ce que nous voulons marcher avec Dieu pour faire l'expérience d'Ézéchiel? Est-ce que nous sommes d'accord pour vivre l'expérience d'Ézéchiel? Je vous ai dit que Dieu a donné une formation à Ézéchiel, une instruction à Ézéchiel. Est-ce que nous voulons de la même instruction pour le même résultat? Est-ce que nous voulons que Dieu se saisisse de nous pour qu'à partir de ce soir, Dieu puisse dire, eh bien, je vois qu'ils ont compris comment il faut prier. Ils ne vont plus prier dans le vide, ils ne vont plus prier dans le doute, ils vont prier avec la certitude, la ténacité et la foi. Est-ce que ce soir, nous sommes d'accord? Peut-être nous ne sommes pas tous d'accord, mais est-ce que ce soir, il y a quelqu'un dans cette salle, des jeunes, des personnes, des adultes, des gens qui travaillent, des personnes qui sont à la retraite, qui disent, eh bien, oui, je veux faire l'expérience d'Ézéchiel, je veux que Dieu change mon cœur, parce que je veux que lorsque je prierai, Dieu réponde. Est-ce que vous êtes d'accord, frères et sœurs? Ézéchiel ignorait tout. Il ne savait même pas qu'il existait une vallée, je ne sais pas où, un site, avec tant d'ossements desséchés. L'Esprit de Dieu est venu sur lui, il s'est senti transporté dans le pays, en dehors du pays, une vision extraordinaire, et le voilà qu'il découvre le carnage, le dommage qui a eu lieu dans la vallée. Dieu le lui fait découvrir. La première chose, mes frères et sœurs, auquel il nous faut réfléchir, c'est à ce que l'on appelle le monde invisible, les choses spirituelles. Car il y a le monde matériel, mais il y a aussi le monde spirituel, les choses invisibles. Je vous vois, vous êtes là, vous me voyez, mais vous savez bien qu'il y a le monde invisible, avec les puissances qui cherchent à nous détruire, avec les esprits qui cherchent à s'opposer. Je crois que chaque fois qu'une personne rentre dans la salle, moi je crois qu'il y a un esprit mauvais qui cherche à lui mettre le voile, à baisser son voile, à empêcher de comprendre, à obscurcir son cœur, à fermer ses yeux. Il y a les puissances de l'enfer qui se démènent contre Jésus-Christ et contre la parole de Dieu. Et il nous faut réfléchir au fait que Dieu est au courant de cela, Dieu voit tout cela. Ézéchiel a été transporté et il a vu que la désespérance, c'était un grand malheur qui s'abattait sur le peuple de Dieu. Et ce soir, Dieu a besoin de nous pour travailler en faveur de l'Église, pas de l'Église de Sainte-Agne, de l'Église de Jésus-Christ. Nous arrivons, frères et sœurs, dans une période bien difficile pour l'Église et qui sera de plus en plus difficile. N'attendez pas que les choses s'arrangent, n'attendez pas que les médias viennent du côté de l'Évangile, n'attendez pas que les savants se mettent du côté de Jésus-Christ et que tout le monde confirme Jésus-Christ. Attendez de l'opposition, attendez de la lutte, attendez de la persécution, attendez que les choses deviennent de plus en plus difficiles parce que c'est écrit comme cela dans la parole de Dieu. Attendez que les églises deviennent de plus en plus superficielles. Attendez que les églises s'enfoncent, se mélangent avec le monde, ou que le monde rentre dans l'église, ou que l'église vienne, aille dans le monde. Attendez cela, mais n'attendez pas que les choses aillent naturellement et normalement toutes seules. Le monde invisible, c'est la destruction des enfants de Dieu. Combien d'enfants de Dieu ont marché? Il en manque ce soir ici. Ils ont marché pendant des années, et puis un jour, parce qu'ils ont manqué d'espérance, ils sont morts. Je peux vous dire, frères et sœurs, que les morts de demain sont des gens qui n'ont pas d'espérance ce soir. Je peux vous dire, frères et sœurs, que les gens qui sont morts ce soir n'avaient pas d'espérance hier. Car le fait de perdre son espérance en Jésus-Christ, ses relations avec Jésus-Christ, son futur avec Jésus-Christ, le fait de ne plus avoir d'espérance, détruit complètement la vie spirituelle. Donc c'est la première leçon que Dieu a donnée à Ézéchiel. La deuxième leçon qui est très importante, que je voudrais bien que nous comprenions, c'est que Dieu n'est pas d'accord avec tout ce qui s'est passé. Dieu n'est pas fataliste. Dieu n'est pas d'accord. Ézéchiel doit découvrir et apprendre que Dieu a un plan pour ramener tous ces gens-là, pour sauver tous ces gens-là. Dieu n'a pas dit, ben, ils sont morts, on passe à d'autres. Dieu est chagriné, et le mot n'est pas sûrement le bon. Dieu est peiné d'une très grande tristesse de savoir que le peuple a eu son espérance détruite. Et Ézéchiel est en train de le découvrir. Il ne savait pas, il ne connaissait pas, et il apprend que Dieu n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. Est-ce que vous croyez que Dieu est d'accord avec les chrétiens qui meurent ? Est-ce que vous croyez que Dieu est d'accord avec les églises où l'on est de moins en moins nombreux, où l'évangile est de moins en moins prêché? Est-ce que vous croyez que Dieu est d'accord et laisse faire cela en disant, eh bien, un perdu, 10 de retrouvé? Absolument pas. Dieu n'est pas d'accord. Et cela, il est important que nous le comprenions. Ce sont des paroles que je donne comme cela, mais il est important que lorsque vous réfléchissez à une personne perdue, à la ville, tout à l'heure, quelqu'un a prié pour la ville de Toulouse, eh bien, il faut savoir que Dieu n'est pas d'accord avec la perdition de la ville de Toulouse. Il voudrait autre chose que cela. Et il ne se satisfait pas de quelques personnes qui se sont converties, de quelques personnes qui sont en Jésus-Christ. Il y a une grande peine dans le cœur de Dieu. Et quand on sait que Jésus-Christ a pleuré en regardant la ville de Jérusalem, eh bien on peut imaginer qu'il y a des larmes également encore dans les yeux de Jésus-Christ quand il voit la ville de Toulouse. Ézéchiel apprend cette vérité, Dieu n'est pas d'accord. Et puis, surprise, par des questions que Dieu lui pose, Ézéchiel se rend compte que Dieu a un plan, un projet. Est-ce que ces morts peuvent revivre ? Alors là, il est sidéré. Il dit, mais je ne sais pas, tu le sais ? La vérité, c'est qu'il aurait dû dire, je n'en sais strictement rien. 5 minutes avant, il ne savait même pas qu'il y avait tous ces morts-là. Il se rend compte que Dieu a un plan. Et que le plan de Dieu est prévu, est précis. Il était important qu'il sache cela. Et puis, autre leçon que Dieu lui donne, c'est que Dieu lui inculque des paroles qu'il devra redire. Nous n'avons pas confiance dans la récitation de paroles. Ce n'est pas ce que je veux dire ce soir. Il y a des gens qui récitent, souvent on m'a dit, vous pouvez m'écrire une prière. Ça ne veut rien dire. Peut-être que je peux vous écrire une prière et qu'elle va produire énormément de fruits, si vous la dites de tout votre cœur. Mais Dieu ne nous demande pas, il n'y a pas de miracle dans la récitation d'une prière. Mais Ézéchiel s'entend dire par Dieu, parle. Voilà ce que tu vas dire, prophétise. Et mot pour mot, il enregistre ce que Dieu veut qu'il dise. Et il est sidéré de voir que le plan de Dieu, c'est le salut de tous ces gens-là. Ce que Dieu dit, c'est le salut de tous ces gens-là. Alors Ézéchiel, il le dit. Il dit que je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Pourtant, on n'a pas l'impression que Dieu parlait sous la forme d'un ordre, mais Ézéchiel a bien compris qu'il s'agissait d'un ordre. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Lui, il l'a senti comme un ordre. Et alors, il a répété ce que Dieu lui venait de dire. Il l'a répété. Et comme il le répétait, il a vu que la parole de Dieu produisait son fruit. Frères et sœurs, tout ça, ça va se mettre en place après. Je vais reprendre ces points-là, les mettre en place après. Frères et sœurs, la parole de Dieu a une puissance extraordinaire. Il faut que nous comprenions cela. Cessons de prier. D'abord, il est écrit que quand nous devons prier, nous devons réfléchir, nous devons penser. Nous n'avons pas à débiter, à nous presser. Quand nous sommes chez nous, réfléchissons. Penchons-nous sur ces vérités. La parole de Dieu a une puissance extraordinaire. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est une parole de vie, c'est une parole qui bouleverse l'univers. Ce que Dieu dit, c'est, il ne le rattrape pas, il ne le dit pas à toute vitesse en disant, c'est pas ce mot que je devais dire, c'est pas comme cela. La parole de Dieu est une parole qui produit immédiatement. Vous le comprenez, cela? Vous le savez. Et quand Dieu a dit « parle à ces eaux », eh bien, il suffisait qu'il parle à ces eaux pour que les eaux entendent, pour qu'il se passe quelque chose, que les eaux se rapprochent, que les morts se réveillent, que la vie revienne. C'était des paroles qui sortaient de la bouche de Dieu. Et le prophète, les répétant, eh bien, la parole de Dieu a agi. Ce que Dieu dit a de la puissance. A de la puissance. Et vous savez, un chrétien qui n'a plus d'espérance ne croit pas du tout à ça. Un chrétien qui perd son espérance, il ne croit pas du tout à la puissance de la parole de Dieu. Il l'oublie. Ça ne descend pas dans son cœur. Il voit ça de très très loin, de trop loin. Je remarque que, je pense que c'est fait exprès, je remarque que Dieu a demandé à Ézéchiel de prier deux fois. Une fois en s'adressant aux eaux et une fois en s'adressant à l'Esprit de Dieu. Et Ézéchiel a répété deux fois. Et quand il a répété, il s'est rendu compte que ce qu'il disait produisait, parce qu'il le disait de la part de Dieu. Est-ce que ce n'est pas ça, prier selon la volonté de Dieu ? Est-ce que tout à l'heure, on n'a pas commencé en lisant un verset, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Est-ce qu'Ézéchiel n'a pas mis ça en pratique, frères et sœurs ? Il a prié selon la volonté de Dieu. Et priant selon la volonté de Dieu, bien sûr que c'était la volonté de Dieu. Il n'est louable en rien, Ézéchiel, il n'a rien fait. Sauf qu'il a laissé son cœur changer. Il s'est adapté à l'attitude de Dieu. Il a collé avec le cœur de Dieu. Il a compris que Dieu n'était pas d'accord avec tout ce qui se passait, que Dieu n'acceptait pas cela, que Dieu ne voulait pas la défaite, que Dieu ne voulait pas la mort. Il a compris cela. Il a compris que Dieu avait un plan, que Dieu voulait autre chose. Et ça l'a émerveillé, ça l'a étonné, ça l'a sidéré. Mais il a compris cela. Et il a répété les paroles de Dieu. Et comme son cœur avait changé, il a répété des paroles qui ont produit effet. Il a prié selon la volonté de Dieu. Imaginez que ce soir, nous ayons à dire au Seigneur, « Seigneur, donne ton esprit à l'Église. » C'est selon la volonté de Dieu ou pas ? Réfléchissons. Est-ce que Dieu a dit quelque part qu'il donnerait son esprit à l'Église ? Est-ce qu'on a une promesse ? Est-ce qu'on peut prendre cette promesse comme Ézéchiel a pris la parole de Dieu ? Est-ce qu'on peut répéter cette promesse ? Et est-ce qu'on peut dire, eh bien, Esprit de Dieu, viens sur l'Église ? Puisque c'est Dieu qui l'a dit. Vous me suivez, frères et sœurs ? Puisque c'est Dieu qui l'a dit. Quand nous disons à Dieu, Seigneur, donne ton esprit, ça ne veut pas dire que nous cherchons à influencer Dieu. Nous répétons ce que Dieu a dit. C'est lui qui cherche à nous influencer. Nous répétons ce que Dieu a dit. Bon, pourquoi Dieu ne le fait pas tout seul ? Il a besoin de nous. Il a besoin de l'Église. Mais quand nous disons, si, je reprends le même exemple, Seigneur, donne ton esprit à l'Église de Sainte-Agne, afin que lorsqu'il rentre une âme, elle soit convaincue de péché, est-ce que oui ou non, c'est une prière qui peut être considérée comme étant selon la volonté de Dieu ? Est-ce qu'il y a des versets dans la Bible qui nous montrent que Dieu l'a dit et que si nous le disons, nous ne faisons que répéter ce que Dieu a dit. Par exemple, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Par exemple, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, mais vous, vous le recevrez. Et quand il sera, quand vous l'aurez reçu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Ce que je voudrais que vous compreniez, frères et sœurs, c'est que si je dis « Seigneur, envoie ton esprit », je ne cherche absolument pas à persuader Dieu d'envoyer son esprit, mais je répète ce que Dieu a dit, je suis en accord avec lui, je suis selon la volonté de Dieu, et soit que je dise « Seigneur, envoie ton esprit », soit que je dise « Esprit de Dieu, viens », c'est selon la volonté de Dieu, parce que je répète ce que Dieu a enseigné. Et la parole de Dieu a de la puissance. Vous m'avez bien suivi jusque-là ? C'est une prière qui produit. Ne nous laissons pas, vous savez, le diable, lui, il n'a pas peur de nos prières quand nous prions comme si nous avions en face de nous quelqu'un qui nous résiste, quand nous avons l'air de vouloir persuader Dieu, de vouloir trouver des arguments pour le faire réfléchir et pour emporter la décision, ça fait rigoler Satan. Parce que ce n'est pas ça la prière. Prier selon la volonté de Dieu, c'est pouvoir dire que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et sa volonté, c'est donc quelque chose qu'il a exprimé. Si je demande à Dieu, est-ce que Dieu a dit, oui ou non, qu'il le ferait? Je prends un deuxième exemple. L'un de nous est malade dans l'église. On s'habitue, frères et sœurs, à ne pas avoir de guérison. Et la Bible dit, priez les uns pour les autres. Pas chacun pour soi. Dieu ne bénit pas les prières chacun pour soi. Mais priez les uns pour les autres. Moi, je comprends les bien portants pour les malades. Et vous serez guéris. Il l'a dit ou il ne l'a pas dit? Est-ce que je peux prophétiser, alors? Prophétiser, ça veut dire parler de la part de Dieu. Et dire, Seigneur, on a un frère qui est malade, on a une sœur qui est malade. Guéris ce frère. Mais en le disant, je pense que je suis associé avec Dieu. Je suis en accord avec Dieu. Il est d'accord avec moi. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Je suis d'accord. Exactement comme Élie qui, sur le Carmel, disait, Seigneur, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Bien sûr, le matin, Dieu lui avait dit, je vais faire pleuvoir ce soir. Alors, il s'y mettait de toute son ardeur. Vous pouvez lire dans 1 Roi 18, c'est écrit, Dieu lui avait dit, je ferai pleuvoir, et il priait. Et même l'apôtre Jacques nous dit que Élie était un homme comme nous, mais qu'il a... Il avait l'assurance dans la prière, l'assurance, il ne l'inventait pas, c'est Dieu qui lui avait dit de le faire. Est-ce que Dieu m'a dit, priez les uns pour les autres? Que Dieu me garde de prier à toute vitesse pour un malade, que Dieu me garde. En disant, Seigneur, oh, il faut que je te persuade, ce pauvre frère, personne ne peut rien pour lui, il faut que je te persuade. Ça, c'est pas bon, frère, c'est ça. Changeons de mentalité. Allons à l'école de Dieu. Entendons que Dieu n'est pas d'accord avec cela. Entendons que Dieu souffre de voir les gens mourir dans leurs péchés. Que Dieu n'est pas d'accord de voir des gens qui ne sont pas délivrés parce que Jésus-Christ a pris nos infirmités sur la croix. Et qu'il est écrit, priez les uns pour les autres et vous serez guéris. Quand les disciples sont allés envoyés par Jésus-Christ, Jésus leur avait dit, allez et guérissez les malades. Ils avaient une parole de Dieu. Et j'imagine que chaque fois qu'ils voyaient un malade, ils devaient repenser à ce que Jésus avait dit. Donc ils répétaient ce que Jésus avait dit. Et c'était la puissance de la parole de Jésus. Je ne voudrais pas être très long. J'ai dit à Monsieur Gau, je serai court si je peux. Je voudrais que nous changions de mentalité dans la prière. Je voudrais que nous sachions que prier, ce n'est pas persuader Dieu. C'est nous ranger du côté de Dieu, on est d'accord avec lui, on est associé avec lui, on a sa parole, on répète ce qu'il a dit, on est d'accord avec ce qu'il a dit, et quand on dit « Seigneur, sauve des âmes à Toulouse », on n'invente rien. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est écrit? On a une parole? Réfléchissez. Si vous avez un problème, quel qu'il soit, réfléchissez s'il existe dans la Bible une parole pour vous. Et je me souviens avoir dit ici une fois, et je le redis ce soir, si un jour Dieu vous donne une parole, ne la laissez pas tomber à terre. Ne l'oubliez pas. Si un jour en lisant quelque chose, vous dites, oh, ça, c'est, ce verset, il est extraordinaire, il est pour moi. Ne l'oubliez pas, parce que Dieu vous donne ses paroles, et c'est sur cette parole que vous allez vous appuyer. Et quand vous allez prier, vous n'allez pas demander à Dieu de faire des choses que vous avez compris qu'il fallait les faire, et vous êtes en train d'apprendre à Dieu qu'il faut les faire, non. Vous dites à Dieu, Seigneur, je suis associé avec toi, on est ensemble. Puisque tu as bien voulu que m'utiliser, eh bien Seigneur, que ta volonté soit faite. Bénis ceux qui sont malades, guéris ceux qui souffrent et que les pécheurs se convertissent. Pour terminer, je voudrais compléter cette pensée avec ce qui est écrit plusieurs fois dans le Nouveau Testament, où il est dit « faire des supplications », c'est le terme qui est dit, faites toutes sortes de supplications avec... Vous êtes sûr que c'est comme ça? Faire toutes sortes de supplications avec action de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire avec action de grâce? Eh bien, ça veut dire que celui qui va supplier Dieu, soit il le dit, soit il l'exprime, en tout cas il le croit dans son cœur, il demande à Dieu telle chose parce que Dieu lui a dit de le demander. Et je crois que c'est bien de commencer toujours notre prière en disant « Seigneur, merci parce que tu veux sauver les âmes. Alors je te demande de sauver les âmes. Qu'elles soient sauvées. Je peux dire qu'elles soient sauvées, que mes frères soient bénis, ou bénis mes frères. Ce sont des dispositions grammaticales, ça c'est pas bien important. Mais ce qui est important, c'est que nous sachions que nous sommes associés avec Dieu, nous sommes de son côté, il est du nôtre, il n'est pas notre ennemi. Et nous n'avons pas à le convaincre. La prière faite selon sa volonté, il nous écoute. Et je pense que ce soir, vous comprenez mieux ce verset. Donc, nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. J'ai lu l'écrit d'un serviteur de Dieu, d'un très grand serviteur de Dieu qui a amené beaucoup d'âmes au Seigneur et qui disait que c'est tenter Dieu que de demander quelque chose qu'il n'a pas promis. C'est tenter Dieu. La première chose qu'il faut faire, c'est est-ce que Dieu a fait une promesse? Vous me suivez? Quoi que nous demandions, quelle est la volonté de Dieu? Quoi que nous demandions, est-ce que Dieu a promis cela? S'il l'a promis, approchons-nous de lui. Accrochons-nous à cette promesse. Il est associé avec nous, nous sommes associés ensemble contre Satan, contre les puissances de l'adversaire, contre les puissances du monde. Nous sommes avec Dieu. Et action de grâce, parce que la parole de Dieu a une telle puissance qu'à partir de là, rien ne peut arrêter Dieu. Rien. Est-ce que vous savez que rien ne peut arrêter Dieu? Vous savez, on peut faire tout ce qu'on veut, frères et sœurs. On peut imaginer des choses pour amener des âmes. On pourrait avoir une salle avec 10 000 personnes et puis faire beaucoup de choses. Et sur 10 000 personnes, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il n'y aura pas une seule conversion. Pas une. Pas une. Et même si on était convaincant à tel point que 10 000 personnes disent « Oh, je veux être baptisé », eh bien, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est 10 000 personnes qui deviendront 10 000 morts plus tard, parce qu'elles perdront leur espérance, parce qu'elles ne seront pas attachées à Jésus-Christ. Il nous faut l'Esprit de Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, rien n'est impossible. Ce que Dieu dit, il le fait. Amen. Voilà. Seigneur Jésus, nous avons bien conscience que très souvent nous sommes ridicules avec nos prières. Nous avons bien conscience que souvent nous sommes honteux parce que nous ne prions pas en pensant que nous sommes dans ta volonté. Très souvent nous demandons des choses qui sont dans ta volonté, mais nous, notre cœur n'est pas conforme. Nous ne comprenons pas que nous sommes associés avec toi. Nous ne comprenons pas que tu es d'accord avec nous. Nous ne comprenons pas, il nous semble qu'il s'agit pour nous de te persuader. Nous avons honte de cela. Et c'est pour cela que très souvent tu nous résistes et que tu ne réponds pas à nos prières. Seigneur Jésus, ce soir j'aurais voulu, je ne sais pas si mes frères et sœurs ont reçu pleinement, j'aurais voulu que nous comprenions que la prière c'est dire ce que tu as dit, c'est affirmer ce que tu as dit toi-même, c'est l'affirmer, c'est le dire. Et les paroles de Dieu portent leurs fruits parce qu'elles ont été prononcées par Dieu. C'est vrai, Seigneur, que tu as des plans merveilleux pour cette ville. Tu as des plans pour les perdus. Tu ne te satisfais pas de voir les armées se mourir les unes après les autres. Tu ne te satisfais pas de voir les églises se vider. Tu n'acceptes pas cela. Et tu as des plans pour que les hommes reviennent vers toi. Tu as un plan merveilleux, mais tu cherches des hommes capables de travailler avec toi, capables d'être co-travailleur avec toi, c'est d'être tes serviteurs en réalité. Ô Seigneur, ce soir, trouve-nous, trouve-moi. Permets-moi, Seigneur, de me faire monter vers toi la prière que tu agréeras, la prière que tu béniras et que tu exauceras parce qu'elle sera faite selon ta volonté. Parce que quand je prierai, je saurai que c'est toi-même qui as dit qu'il fallait que ce soit comme cela. Et bien entendu, il y aura l'action de grâce tout normalement dans cette prière. Parce que je ne me poserai même pas la question de savoir si tu vas le faire, puisque c'est toi-même qui l'as dit. Ô Seigneur, ce soir, inspire-nous dans nos prières. Ce soir, montre-nous que tu veux sauver la ville. Montre-nous que tu veux faire revenir les rétrogrades. Montre-nous que tu veux chasser les démons. Montre-nous que tu veux guérir les infirmes. Montre-nous, Seigneur, que lorsque Jésus est là, la gloire de Jésus est là. Montre-nous que tu es capable de sauver l'homme le plus perdu, le plus misérable. Montre-nous cela, Seigneur, et que nos prières soient faites en accord avec ce que tu nous auras montré. Nous te le demandons, Père, pour la gloire de Jésus. Et comme tu l'as dit à Ézéchiel, afin que tous sachent que l'Éternel est Dieu. Amen.